Et merci beaucoup, Monsieur Maréchal. Madame Maréchal, je la cherche des yeux. Merci pour merci beaucoup pour votre excellent accueil. Puis merci à tous les logeurs. Les jeunes sont arrivés ce matin, ils ne paraissaient pas traumatisés, donc je pense que ça a dû bien se passer. Je leur demanderai s'ils ont été sages. Ils vont me répondre certainement oui. Alors, ils ouvrent des yeux un peu étonnés parce que, en fait, dans chaque église, il y a des cultures différentes. Alors déjà, pour ceux qui viennent d'autres pays, d'autres continents, quand ils arrivent à Poitiers, des fois, ils sont surpris de voir un fonctionnement d'église qui est différent de celui qu'ils ont laissé. Et puis, quand ils arrivent dans une autre église, parce que de temps en temps, je les trimballe un petit peu avec moi, alors ils ouvrent des grands yeux en se disant « Ah, c'est pas comme chez nous ». Alors, vous apprenez comme ça, eh bien, que les choses peuvent être différentes, mais qu'elles sont bien aussi. Et je me réjouis de ces moments que nous passons ensemble sous le regard de Jésus. Voilà, comme c'est affiché au tableau et enfin, à l'écran, je remercie Teddy de passer les vues. On va lire ensemble dans le prophète Ésaïe, chapitre 40. Le prophète Ésaïe, chapitre 40, et j'aimerais vous parler sur le thème qui apparaît sous les yeux, c'est le titre de ma prédication. Ça me permet de, si vous voulez, d'avoir un fil conducteur. Ce sont les leçons de la fatigue. Alors, si je vous parle sur la fatigue, c'est surtout pour vous parler d'en sortir, en réalité. Je pense que vous avez compris. Alors, le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 27. « Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se, qu'est-ce qu'il y a marqué dans vos Bibles? Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents, y a-t-il des adolescents dans la salle? Se fatigue et se lasse. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia! Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. C'est un texte magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est vrai parce que ce n'est pas moi qui ai fait le sondage, mais il paraît que 55% de la population française dit « je suis fatigué ». Je ne sais pas si ça vous arrive de le dire, cela, « je suis fatigué ». 55% de notre population. Et curieusement, on entend ces mots dans la parole, dans la bouche des plus jeunes. « Je suis fatigué, pasteur. Oh, je suis fatigué. Oh. » Et c'est vrai, nous entendons cela de la bouche des plus jeunes et la Bible évoque à plusieurs reprises par les mots fatigué, épuisé, lassé, vacillé, chancelé. On le comprend dans une société où l'être humain devait lutter pour survivre. Par exemple, vous aviez des gens, des enfants qui pouvaient épuiser des journées entières pour faire boire des troupeaux. D'ailleurs, vous connaissez tous l'histoire de Rebecca avec les chameaux. Vous la connaissez, l'histoire? Elle a donné à boire pour... Il y avait 10 chameaux. Il faut savoir que le chameau moyen consomme 135 litres d'eau de temps en temps. Alors, comme les chameaux étaient assoiffés, vous imaginez 135 multiplié par 10, ça fait... Je vous laisse calculer. Et elle a puisé. Et puis le soir, elle a continué sa soirée et écouté l'homme de Dieu qui venait lui parler. Donc une société qui était où l'homme luttait contre la famine, la précarité, les épidémies, parfois contre les guerres, par rapport les razzias, etc., tout ce qui pouvait exister. Son quotidien était une lutte pour l'existence et on comprend que l'homme était fatigué. Parfois, je suis très surpris d'entendre cette parole dans la bouche de chrétiens. Alors pendant longtemps, j'ignorais totalement ce que c'était la fatigue. Je ne savais pas, je ne savais pas du tout. Puis vous avez remarqué que le poil a blanchi, le cheveu a blanchi, et puis la fatigue est arrivée. Donc je comprends maintenant que des gens soient fatigués. Mais j'ai un peu du mal à comprendre que ça touche des plus jeunes. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, la loi proposait 3 mois de jours chômés. Entre les fêtes, les jubilés, les sabbats, etc., si vous totalisiez, ça faisait 3 mois de jours chômés. On n'est pas encore arrivé à ça en France. Hein. Vous vous rendez compte? Dieu avait prévu pour son peuple des plages de repos. Et c'est vrai que parfois nous voulons nous reposer et il faut réaliser que les vacances ne sont pas toujours suffisantes pour trouver le repos. Alors, je ne sais pas si tu peux mettre mon plan, s'il te plaît. Voilà, tu peux y aller. Alors, après avoir listé quelques raisons de fatigue avec la parole de Dieu, on va voir les conséquences qu'elle peut avoir en nous et les solutions que Dieu nous propose. Et on finira par une promesse de Jésus, parce que Jésus nous a laissé une promesse fantastique. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez, on le dit tous ensemble, on respire comme à la chorale. Allez, je vous faire lever un petit peu, parce que comme ça, ça va... Vous allez parler encore plus fort. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, s'il y a quelqu'un qui est fatigué et chargé, il entend cette parole de Dieu, c'est Jésus qui l'a prononcée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais là, je suis en train d'arriver à ma fin. Auparavant, j'ai un petit peu de travail à faire. Alors, on va voir ensemble des raisons de fatigue, et on va essayer de les lister ensemble. Vous avez des fatigues que j'ai appelées des fatigues légitimes. C'est ce qui est rattaché à l'activité humaine. Alors, je parle aux étudiants, les études. Vous allez me dire, ouais, mais étudier, c'est pas fatigant, on est assis. Non, mais quand ça travaille là-dedans, c'est fatigant. Donc, vous avez les études, l'activité physique. Et la Bible, d'ailleurs, déclare que Jésus lui-même a connu la fatigue. Assis au bord du puits de Sichar, Jésus était en train de se reposer. Il y a également la fatigue qui est rattachée à des circonstances de la vie, par exemple la privation de sommeil, la maladie, peut-être aussi une mauvaise alimentation. J'ai une de mes nièces qui est prof à la fac de Poitiers, elle est prof de sport. C'est une jeune femme qui a à peu près 32-33 ans, je crois. Et qui fait de la gymnastique. Donc son sport, si vous voulez, sa discipline, c'est la gymnastique. Et à son âge, il est arrivé, je crois, finaliste en championnat de France. Donc c'est une bête, hein, en sport. Et elle me disait, la manière dont nous dormons, la manière dont nous nourrissons, va faire qu'on est performant ou pas. Et c'est vrai que ma manière de manger, ma manière de dormir, ma manière peut-être aussi de relativiser certains événements, vont faire que je suis fatigué ou en pleine forme. Et puis, j'ai pensé aux fatigues légitimes. Merci de tourner. Nos fatigues légitimes. Nos excès divers. Si vous couchez tous les jours à 2h du matin, il est certain qu'au bout d'un moment, vous serez fatigué. Il y a nos angoisses, le sentiment de l'échec, peut-être parfois la peur de l'avenir. Mais aussi, il y a notre paresse. Alors, je vais vous citer en vrac tout un petit paquet de versets du livre des Proverbes. Ah, le livre des Proverbes. Parfois, c'est un petit peu décapant et on aimerait bien quelquefois l'effacer de nos Bibles. Mais en tout cas, il y a la vérité. Et ça veut nous parler. Proverbes chapitre 6, « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Paresseux, chapitre 6, verset 9. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? J'ai un petit peu avancé. Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène pas dans sa bouche. Dans mon midi natal, on dit que parfois quelqu'un est tellement paresseux qu'il n'arrive même pas à se gratter lui-même. Donc on se rend compte que parfois, l'excès de la paresse engendre des gestes bizarres. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Et quand c'est la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. C'est normal. À cause de sa fainéantise et de sa paresse. Le paresseux dit, alors celui-ci me fait trop rire, écoutez-le bien. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué si je mets le nez dehors. » C'est étonnant, une telle parole. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, je trouve le prétexte énorme pour justifier la paresse. Et puis, chapitre 26, verset 14, il dit ceci, « La porte tourne sur ses gonds et le paresseux tourne dans son lit. » Et on se rend compte que le paresseux, effectivement, peut vraiment nous amuser. Et paradoxalement, si tu peux le mettre, tu peux mettre toutes les autres lignes, et puis on arrive au dernier texte. Non, on revient un petit peu en arrière, tu es trop vite. Merci. Un petit peu avant, voilà. Au chapitre 31, verset 27, il nous est parlé de la femme vertueuse. Alors, je suis très heureux parce que souvent, Hélène, c'est ma femme, il y a des jeunes filles qui me disent, mais non, Hélène, c'est vraiment la femme vertueuse. Je dis, ouais. Alors, la femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Mesdames, avez-vous entendu ce que je vous ai dit là? Mais je pense que c'est valable aussi pour les hommes. Parfois, la marche chrétienne pourrait nous lasser. Tu peux y continuer? Parfois, la marche chrétienne pourrait nous lasser, tombant dans une espèce de monotonie. On ne s'en sort pas. Et à cause de cela, on est mal. Mais je dirais que cela est valable pour toutes les relations humaines, parfois même dans le couple. Je suis lassé de mon mari. Je suis lassé de mon épouse. Et on se rend compte que parfois des choses vont se mettre là. Et c'est valable aussi parfois pour les amitiés, pour la famille, nos parents, nos enfants. Valable aussi pour notre vie d'église. Je suis lassé de la vie d'église. Et oui, j'ai encore voir le frère un tel qui va me dire « Bonjour, comment ça va ?» Je ne supporte plus. C'est grave quand on ne supporte plus les autres, vous ne trouvez pas? Quand les autres nous fatiguent et nous lassent. Et nous pouvons tomber dans une forme de saturation. Vous remarquerez que ce ne sont pas les grosses choses parfois qui nous fatiguent, mais l'accumulation des petites. Et souvent, ce qui est secondaire et superficiel devient prioritaire dans notre vie. Nous nous trompons de fonctionnement et à cause de cela, nous en sommes fatigués. Alors, bien sûr, tout cela a des conséquences qui seraient graves. Si tu peux nous les mettre, s'il te plaît, Teddy. Voilà, tu peux tourner la page. Il y a des conséquences qui peuvent être graves. Il peut y avoir une forme d'appauvrissement mental et spirituel. Vous avez remarqué le paresseux. Il ne sème pas quand c'est les beaux jours. Il ne laboure pas, il ne sème pas. Et puis quand c'est le moment de récolter, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien à manger. Et c'est la disette. Quand on entend quelqu'un qui est toujours fatigué, c'est fatigant pour les autres. Vous imaginez quand vous voyez votre mari, votre femme qui se lève le matin, il vient pour prendre son petit déjeuner ou elle prend son petit déjeuner, et vous lui dites « je suis fatigué ». Je trouve que c'est particulièrement lassant d'entendre cela et d'entendre se renouveler. Quand on veut éviter la fatigue, il y a des catastrophes dont il faut vraiment faire attention. Par exemple, à un moment donné, des hommes diront à Josué, « Ne donne pas cette fatigue au peuple !» Tu vois, on a déjà pris Jéricho, là il y a la petite ville de Haï. « Ne donne surtout pas la fatigue au peuple, on va y aller à 3 ou 4, tu vois, on va remporter la ville d'Haï sans coup fourrer, en rien du temps, ça va se faire !» Et ça s'est terminé par une catastrophe. Et quand nous voulons éviter la fatigue, parfois, ça se termine par une catastrophe. À un moment donné, les sacrificateurs disaient, le service du temple est trop fatigant. Servir Dieu, c'est trop fatigant. Et quand j'entends une telle parole, je vais prendre un petit peu du recul. Excusez-moi, mais moi, quand je prends du recul avec ma voiture, c'est que je fais une marche arrière. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Et quand je dis « je prends du recul dans l'œuvre de Dieu », et ça veut dire non seulement que je m'arrête, mais que je suis en train de reculer. Et ce n'est pas forcément pour faire un créneau. Et si nous faisons un créneau, eh bien nous arrêtons là, attendant Dieu sait quoi. Donc il y a des catastrophes qui sont inévitables quand on veut éviter la fatigue. Cela a des conséquences sur nous, notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, avec un caractère qui soit irritable, déprimé, une mauvaise humeur, de l'impatience. Cela peut ouvrir la porte et nous rendre vulnérables au péché. Vous vous rappelez lorsque Moïse s'est emporté contre Israël? Moi, je comprends que Moïse en avait assez. Ils étaient toujours en train de se plaindre. On en a assez de cette mauvaise nourriture. Donne-nous de la viande. Ah, quand on était en Égypte. Ah, comme on aimait les poireaux. Et puis l'oignon. Ah oui. Et puis l'ail. Oh. On aimait cela. On était si bien en Égypte. Oui, mais en Égypte, il y avait les briques. En Égypte, il y avait le fouet. En Égypte, il y avait la servitude, il y avait la mort. Et là, c'est la vie, c'est la liberté. Ah, l'Égypte, l'Égypte, l'Égypte. Au point que Moïse en a eu assez. Et ce qui est étonnant, c'est que Moïse s'est emporté à un moment donné, et cela a eu des conséquences pour lui. Il était fatigué d'entendre les jérémiades du peuple d'Israël. Alors un cercle vicieux va s'installer, parce qu'il y a un moment donné, les conséquences vont devenir des causes. Alors cela va nous conduire à une troisième pensée qui va nous faire envisager des solutions. Parce qu'il y a des solutions. Il va nous proposer des vitamines anti-fatigue. Je n'en ai pas dans les poches. Des vitamines anti-fatigue. Il me semble que identifier la cause, c'est déjà recevoir le remède. Vous avez remarqué que quand on est malade, on va chez le médecin, on est angoissé, mais c'est... on est malade d'être malade, si vous voulez. Alors, on est là dans la salle d'attente, les gens parlent de leurs maux. Ah oui, il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu voir ce médecin, il est reparti. 3 jours plus tard, il est décédé. Là, si vous êtes cardiaque, alors là, ça vous balaye, c'est étonnant. Puis vous êtes là, vous attendez en me disant, puis le médecin arrive. Vous hésitez entre la fuite éperdue, ou plutôt affronter le monstre, et puis vous affrontez le médecin. Puis vous dites, mais non, c'est rien du tout. Vous êtes un petit peu fatigué, je vais vous donner, vous allez voir, des petites ampoules à prendre, vous allez être dopé, repartir. Alors là, on repart, on galope, on est content, je suis guéri, mieux que Lourdes. Je plaisante. Et parfois, une bonne parole va nous requinquer, et on le voit parfois chez le médecin. Ou bien, avec le dentiste, enfin, on peut le transposer sur l'état de médecin. Alors, on identifie la cause, le problème, et là, on commence à recevoir le miracle. Avoir des fatigues physiques, des fatigues mentales, des fatigues spirituelles, nous devons accepter le miracle, le remède de Dieu, et l'adapter aussi à notre besoin. Alors, on va reprendre, si vous le voulez bien, Ésaïe, chapitre 40. Au verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Vous avez vu ce paradoxe? Les adolescents, les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà ce que déclare la parole. Moi, j'aime ces paradoxes divins. Et il y a un tout petit mot qui est au début du verset 31, mais. C'est ce que c'est que le mot mais, M-A-I-S. C'est une. C'est bien, Christian. Conjonction de coordination. Pourtant, il me semblait que des ingénieurs n'étaient pas forcément des champions en grammaire. Conjonction de coordination. Le propre d'une conjonction de coordination, c'est de rattacher deux prépositions, deux phrases. Une première phrase est rattachée à une autre phrase par une conjonction de coordination. Vous les connaissez par cœur. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Je faisais rougir ma prof de français quand je récitais les conjonctions de cette manière-là. Alors, on va analyser, si vous voulez bien, ce verset, ce chapitre 40 d'Ésaïe, entre versets 27 à 31. On peut relire ensemble ? Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et quand c'est écrit point, si vous voulez, c'est plus fort que pas. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est appuyé. Il ne se fatigue jamais, il ne se lasse jamais. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, on va faire une rapide analyse de ce texte. Verset 27. Il y a comme une révélation de Dieu. Et parfois, ce sont des mots que nous entretenons. Dieu me laisse tomber. Le Seigneur m'abandonne. Le Seigneur ne m'aime plus. Ça vous est déjà arrivé de penser cela ? Moi, ça m'est arrivé de le penser. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un texte où Dieu va dire ceci dans le prophète Ésaïe. La ville de Jérusalem, Sion, dit « Le Seigneur m'abandonne. Le Seigneur s'est détourné de moi. » Et Dieu va dire « Une femme... peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait ? Peut-elle oublier celui qu'elle porte dans ses bras ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, tu es gravé dans mes mains. Alléluia. Et si on a ce sentiment d'être délaissé, c'est peut-être nous qui avons laissé Dieu. Si on a le sentiment d'être abandonné de Dieu, peut-être de ne pas être aimé. Où en est notre amour par rapport à Dieu ? Notre engagement par rapport à lui. Une mère pourrait oublier son enfant. Malheureusement, ça existe. Vous avez des femmes qui ont un déni de grossesse, par exemple, et qui sont incapables de quand l'enfant vient au monde, de l'élever parce qu'il y a un déni. Il y a un refus de cela. Donc, ça peut arriver. Vous avez des mères qui abandonnent leur enfant. On ne sera jamais abandonné notre Dieu. Alléluia. Et quand Dieu regarde ses mains, il voit la gravure de la croix. Et dans cette gravure de la croix, notre nom à chacun est inscrit. Et il suffirait simplement que Dieu, à un moment donné, ne pense plus à nous, il regarde ses mains. Il dirait, c'est vrai, je les ai portées parce que je les aime. Notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous voulons le croire et nous voulons l'accepter. Verset 28, Dieu se révèle comme étant le Dieu infatigable. Verset 29, le Dieu qui renouvelle les forces à chacun d'entre nous, il augmente notre vigueur, dit la parole. Verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles. Je suis heureux de voir des aigles devant moi, des aigles qui prennent leur essor, leur direction vers Dieu. Ils courent sans se lasser. Il marche sans se fatiguer. La clé est là, certainement, pour chacun de nous, se confier en l'Éternel, sortir de nous-mêmes, considérer qui est Dieu et ce qu'il est capable de faire. Ce qui peut nous aider, tu peux continuer, s'il te plaît ? Ce qui peut nous aider, alors, reviens un petit peu en arrière, Merci. Ce qui peut nous aider, c'est la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit dans le psaume 84. Ça m'a toujours surpris. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils, je l'ai mis en gros, il est écrit comment là? Au pluriel. I-L-S. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils, c'est qui ils? Ce sont les mêmes qui ont traversé la vallée de Baca. Eh bien, cette vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de la bénédiction. Leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. Ça veut dire que dans le chemin que je suis, là où il y aurait fatigue, parfois découragement et tentation de baisser les bras, je me confie dans l'Éternel et Dieu va m'aider dans ce renouvellement de mes forces. À la limite, je ne vais pas prier pour que Dieu renouvelle mes forces, mais je me confie dans le Seigneur et je verrai que mes forces vont se renouveler. Et je vais marcher et je vais avancer. Parfois, on est là, mélancolique, sous un arbre, attendant quoi, on ne sait pas, en disant, Seigneur, viens m'aider à me lever. Non, Dieu n'agira pas ainsi. Mais parce que je me confie en lui, je m'appuie sur lui, je suis même capable de changer mon environnement. La vallée de Baca, c'est la vallée des larmes. Je suis capable de la couvrir, de la transformer en un lieu plein de sources, plein de bénédictions. Ma force va augmenter quand je marche. Mes forces augmentent non pas quand je suis assis ou endormi, mais elles marchent pour la parole de Dieu, elles augmentent quand je suis en train de marcher. Apprenons à nous appuyer sur Dieu. Le secret d'une vie heureuse et épanouie n'est pas dans le découragement ou le défaitisme, dans l'oisiveté et la nonchalance, mais dans une force renouvelée par notre relation avec Dieu. Alors je vais vous citer quelques aspects pratiques. Teddy, si tu peux me les mettre. Quelques aspects pratiques. Vous savez qu'un chrétien a le droit d'être équilibré. Devenir équilibré. Repos, sommeil. Tu peux continuer? Apprendre à s'organiser et ne pas se disperser. Tu peux continuer? Éliminer le péché, se décharger sur Dieu. Ne pas être juste à l'excès. Parfois, on se rend malade en voyant certaines choses, même dans nos églises. Laissons faire le Seigneur. Moi, j'ai remarqué que quand Dieu intervient, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en général, il le fait bien. Quand je mets les pieds dans le plat, ça patauge, ça éclabousse. Quand je prie en disant au Seigneur, « Seigneur, je te supplie d'intervenir, parce que je ne sais pas comment faire, mais mes yeux sont fixés sur toi. » Une, c'est moins fatigant, et deux, c'est plus efficace. Je peux citer ta témoignage pour appuyer cela, mais bon, je vais avancer. Apprendre aussi à nous tenir dans nos limites. Il y a des choses que nous pouvons faire, des choses que nous ne pouvons pas faire. Si vous me donnez 50 kilos à porter, j'ai cherché de l'aide. Si ça pèse 500 grammes, je devrais m'en sortir seul. Mais c'est vrai que parfois, nous voulons faire des exploits, être des Goldorak de l'Évangile. Ça ne sert à rien. Apprendre à faire confiance aux autres. Jéthro disait à son gendre Moïse, « Tu vas t'épuiser toi-même, fais leur confiance. Décharge-toi et délègue sur d'autres. » Vivre aussi dans l'amour, dans la compassion, dans la communion fraternelle. Comme les rancunes, les jalousies, comme les rivalités, comme les animosités sont fatigantes. Ne trouve pas que c'est beau de vivre en paix. Amen. Se lever le matin, se dire, tiens, je sais que tout le monde m'aime. Moi, j'ai la chance. Quand je vais au culte à Poitiers, je suis tellement heureux de les voir que je pars très tôt le matin. On arrive à Kélène à peu près 2 heures avant le culte. Je me dis, on va les voir. Donc je les vois arriver. Alors, il y a l'orchestre qui arrive, les répétitions. Alors quand je suis au piano, ben, je me mets au piano, ils arrivent. Alors il y en a, ils ne sont pas trop réveillés. Hein, j'ai du mal à corter ma basse ce matin. Mais on est là, c'est la fête. Et puis la louange commence, c'est la fête. Moi je trouve que la vie de l'église est extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a la chance d'avoir des tas d'amis de tous les côtés, des frères et des sœurs qui nous aiment. À Poitiers, on est tous des immigrés. Moi, je suis méridional. Ma femme est une Parisienne. On a des gens qui viennent de tous les continents. On n'a qu'une chance, c'est d'avoir une église qui nous aime. Et on a intérêt à bien s'entendre. Parce qu'on n'a pas le choix. Et comme on s'entend bien, on est tous heureux de se retrouver. Et les gens qui viennent, ben, on sont tellement heureux de qu'ils se joignent à nous. La rancune. Et voilà, on n'a pas le choix, parce qu'en fait, on n'a pas de famille. Ils sont tous au quel coin de l'horizon. Ne pas chercher à satisfaire notre, si vous voulez, notre ego, notre vanité, en désirant être vu, en militant pour être honoré. Laisse la politique à d'autres. Ils sont même obligés de faire des primaires pour s'en sortir. Apprendre aussi à s'occuper de ce qui est essentiel au détriment de ce qui est artificiel ou secondaire. Puis je le redis, accepter l'aide des autres. Alors je vais terminer par une grande promesse de la parole du Seigneur. Tu peux nous mettre, s'il te plaît. Une grande promesse de Jésus. On refait comme à la chorale, on se lève, on remplit nos faibles poumons de cet oxygène qui va les vitaliser. Et on dit tous ensemble, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dites à votre voisin de chaise, vous avez un voisin de chaise, dites-lui, viens Jésus, toi qui es fatigué et chargé, et le Seigneur te donnera du repos. Alors évidemment, Poitiers est en train de... Bon. Voilà, c'est fini. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous pouvez reprendre vos places. Pour terminer, pour conclure, j'aimerais vous dire simplement ceci. Hébreux chapitre 4 nous parle du repos de Dieu. Alors, je sais qu'il y a eu des mouvements modernistes qui ont... où des gens s'évanouissaient sous des pressions, etc. Et puis on disait, ben, ils tombent dans le repos de Dieu. Non, ce n'est pas du tout ça. Le repos de Dieu, c'est ce repos qui est acquis par la foi. La foi dans le Christ, le Fils de Dieu. Jésus, sur une croix, a pu dire, hein, tout est accompli. Et moi, je crois à cette parole. Tout est accompli. Tout est accompli pour mon âme. Tout est accompli pour mon salut. Tout est accompli pour mon repos éternel, pour la gloire de Dieu. Tout est accompli pour ma guérison. Tout est accompli pour que je m'en sorte. Moi, bon, j'irai, tout est accompli pour que je sois renouvelé dans mon être intérieur. Philippiens chapitre 4, verset 4, je ne sais pas si vous connaissez Philippiens 4, 4. Avec Philippiens 4, 4, avec un 4, 4, on va de partout. Allez, on va lire ensemble, tiens, vous allez voir. Philippiens 4, 4, texte magnifique. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est quelqu'un qui est dans une grande tour d'ivoire, tellement heureux, il a des serviteurs qui le servent, il est logé comme un pacha, c'est ça? Non. C'est un homme qui est dans une prison, enfermé à cause de sa foi. Et il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites-vous connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, j'aimerais terminer par cette dernière phrase, s'il te plaît, si tu peux l'afficher. Laissons le Saint-Esprit nous renouveler. Apprenons à vivre en nous plaçant devant Dieu pour sentir qu'il ôte le fardeau et la surcharge qui est sur nous. Si vous êtes venu fatigué ce matin de votre vie de couple, de votre vie d'église, peut-être même de Dieu, parce qu'on n'osera pas le dire, il est trop spirituel pour cela. Mais parfois nous nous lassons de Dieu. Et là la question se pose, est-ce que nous ne lassons pas Dieu aussi? En tout cas, si nous sommes venus dans un état où nous avons besoin d'être renouvelés, laissons le Saint-Esprit descendre sur chacun de nous. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Nous voulons prier. Nous prions pour que l'Esprit de Dieu descende sur nous, qu'il renouvelle les forces de chacun d'entre nous. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Dans ta parole, nous trouvons la vitalité, la force dont nous avons besoin. Tu es bon, Seigneur, et tu es là dans ce lieu, prêt à répandre tes grâces sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Nous n'avons aucune prétention par nous-mêmes, mais nous voulons fixer nos regards vers Jésus, le chef de notre foi. Il est celui qui la rend parfaite, alléluia. Nous voulons rentrer vraiment dans la bénédiction, dans ce renouvellement intérieur. Je t'ai prié, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.